Installe-toi, l'émission démarre. Ce soir, Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles. Du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique.
Eh bien, bonjour les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'étais plus sur les ondes d'IDFM et là je suis très heureuse d'être revenue. Alors, c'est toujours l'émission à étincelles, mais cette fois-ci elle a changé de format. Donc vous allez me retrouver tous les vendredis de 21h à 22h. Une semaine sur deux, ce sera du direct, comme ce soir. Et nous avons... Un invité que je suis ravie d'accueillir, c'est Philippe Guillemant, qui est physicien et qui est l'auteur d'un ouvrage qui sort ce lundi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Ça s'appelle La physique de la conscience. Alors là, c'est oui. Tout un programme, parce que du coup, c'est un livre qui est très riche, très nourri. Vous avez un parcours, vous aussi, très très riche.
Plutôt, oui.
Plutôt. Est-ce que pour nos auditeurs, le temps que Jocelyn Morisson, qui est journaliste scientifique et qui est, vous a incité en fait à lire, à écrire et forcément à rajouter plein de choses sur cet ouvrage, est-ce que vous, pour les auditeurs, vous pouvez vous présenter, Philippe ?
À me présenter, oui, ben je suis...
C'est toujours un exercice un peu difficile.
Ingénieur physicien, je travaille au CNRS et j'ai eu une longue carrière où j'ai fait de la recherche technologique et je suis revenu depuis une petite dizaine d'années à la recherche fondamentale en physique.
Donc vous êtes chercheur au CNRS?
Oui, je suis chercheur, ingénieur de recherche au CNRS.
D'accord.
Et ma spécialité, c'est l'intelligence artificielle, mais aussi la théorie du chaos.
Alors, on est en train d'accueillir Jocelyn Morisson. Voilà. Bonsoir, Jocelyn. C'est peut-être mieux si j'appuie sur le bouton.
Voilà.
Je suis toute seule pour faire la technique, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Je réponds au téléphone, etc. Donc, Philippe, du coup, était un peu surpris. Donc, nous avons les deux auteurs de cet ouvrage qui sort ce lundi aux éditions Guy Trédaniel, La physique de la conscience, Philippe Guillemant et Jocelyn Morisson. Alors, Jocelyn, Philippe Guillemant était en train de se présenter en tant que chercheur actuellement, chercheur physicien, c'est bien ça ?
Ingénieur physicien
et aussi chercheur.
Bien sûr. Et donc je continue. Donc ma spécialité, c'est l'intelligence artificielle, la théorie du chaos, mais aussi la physique de l'information, la physique du rayonnement. Enfin, j'ai évolué dans différentes branches de la physique. Et je suis revenu sur la physique de l'information depuis, on va dire, 5-6 ans.
D'accord. Ok, et alors qu'est-ce qui vous a incité à revenir sur la physique de l'information ?
En fait, j'ai pris conscience du fait qu'il y a un profond bouleversement de notre conception du temps en physique qui opère depuis une dizaine d'années, qui est latent depuis presque un siècle, depuis les découvertes d'Einstein. Et à travers les progrès actuels de la physique, on s'aperçoit qu'on va vers un profond bouleversement de notre conception de la réalité et qui est dû au changement complet dans notre conception du temps. Notre conception du temps, c'est-à-dire que on s'aperçoit aujourd'hui que le temps n'existe pas, enfin on dit le temps n'existe pas, bien sûr qu'il existe, mais en physique ça veut dire simplement que en physique, on ne comprend pas la notion du présent. C'est-à-dire le présent n'a aucun sens pour la physique.
Est-ce qu'on peut dire, c'est comme si on était en hélicoptère et qu'on voyait en dessous un train avec le wagon futur, présent, passé, et qu'on voit les trois en même temps? C'est une question naïve.
Bah, disons que le présent, c'est comme le fait d'être effectivement sur la Terre, dans seulement deux dimensions, être obligé de marcher. Et le fait de remettre en question la notion du temps, c'est de dire que en fait on rajoute une troisième dimension qui nous permet de survoler tout ça, et à ce moment-là on voit à l'avance le sentier qu'on va parcourir. Donc notre futur est déjà réalisé.
Alors justement, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, le futur est déjà réalisé, et donc en fait nous on va se mettre en synchronicité par rapport à ce futur-là.
Oui, on devrait même dire tous nos futurs possibles sont déjà réalisés.
C'est comme le menu au restaurant, finalement. Les plats sont déjà cuits, puis on choisit notre plat.
Voilà, c'est ça. On
peut c'est pas très romantique, ça. Mais tout le monde comprend ce genre de discours.
Je dis pas que c'est exactement ça. C'est une bonne façon de le simplifier, parce qu'il y a une question de densité d'information qui rentre en jeu. Mais on peut considérer que nos futurs potentiels sont déjà dessinés, que effectivement nos états de conscience vont permettre de privilégier certains futurs plutôt que d'autres, à condition que nous soyons déconditionnés.
Alors on est rentré dans le vif du sujet. Jocelyn, est-ce que tu, pour rappel, tu es journaliste scientifique ?
Oui.
Comment est venue l'idée de cet ouvrage avec Philippe Guillemant ? Comment ça s'est passé ?
Eh bien, ça s'est passé de la meilleure façon qui soit, parce qu'en plus, on a été aidé par les signes aussi. Je pourrais en livrer quelques-uns.
Des synchronicités
qui sont pas connues, qui sont connues que de Philippe et moi. Et peut-être de son entourage aussi, de Laurent.
Du coup, tu nous mets l'eau à la bouche, mais voilà, on va dire que c'était
donc,
juste.
Ça s'est passé d'une manière un peu idéale, en fait. On s'est connus avec Philippe à partir d'un article que j'avais fait pour Nexus. On a été mis en relation par un correspondant commun, je crois que c'était dit, hein. Et moi je me suis intéressé au travail de Philippe, il y avait déjà son site internet qui était assez fourni, et puis il avait publié la Route du Temps, qui est un premier ouvrage tout à fait fascinant, quoi, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à la science et puis au lien entre la science et la spiritualité, la conscience et toutes ces problématiques-là. Et donc on était déjà en contact depuis un certain temps, effectivement, et j'ai vu qu'il avait il en avait sous le pied, comme on dit, hein, c'est-à-dire que je voyais qu'il alimentait son site avec pas mal de nouveautés, des nouvelles réflexions. Dans ses conférences aussi, il avait de nouvelles idées, etc. Je voyais qu'il avait beaucoup de choses à dire, et qu'en même temps, j'imaginais qu'il n'avait pas forcément le temps de mettre tout ça à nouveau par écrit pour faire un livre. Donc je lui ai proposé de collaborer à un projet comme ça. Et moi, ma collaboration, elle a été essentiellement technique, effectivement, hein, parce que j'ai travaillé sur le style, sur la forme, et puis j'ai quand même simplement proposé l'idée à Philippe de faire à la base une série d'entretiens, en fait.
Alors, il y a eu combien d'entretiens?
Pour avoir un matériau un peu dense, voilà. Bah, alors, on s'est vu quelques jours et on a fait plusieurs heures d'entretien. Et ce qui est amusant, donc, si tu veux, je te livre une première anecdote, c'est que moi, j'avais dit à Philippe que pour qu'on ait un matériau assez dense, assez suffisant, enfin suffisant pour alimenter le volume d'un livre, ça serait bien qu'on ait une dizaine d'heures d'entretien. Et donc, on s'est vu plusieurs jours et on n'a pas compté précisément la durée des entretiens qu'on faisait. Je l'ai enregistré donc pendant toutes ces conversations. Et puis, au final, moi, j'avais plusieurs fichiers sons comme ça que j'ai mis bout à bout. Et quand j'ai fait le compte total de ce que j'avais comme durée finalement finale d'entretien, il s'est avéré que j'avais 9h59 minutes d'entretien. Donc, tu vois, il se trouve que ça collait pile avec l'idée qu'on s'était donnée au départ. Alors, on travaillait bien sûr avec un plan qui a évolué ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que Philippe, ensuite, il a eu du temps pour justement retravailler énormément ce matériau de départ, hein, ajouter beaucoup de choses, compléter, et ensuite on a fait des allers-retours pour travailler le style, les références, et les choses que je pouvais apporter aussi avec ma propre culture, mon propre parcours de journaliste, hein. Et au final on a quelque chose d'assez ambitieux, je pense, et d'assez réussi, j'espère.
Alors Philippe, en fait ce plan que vous avez fait pour le livre, c'est en quatre parties. On a quatre parties bien distinctes.
Oui, elles sont bien distinctes, puisque elles ont, on va dire, la première partie, c'est toute la prise de référence par rapport à la physique. Comment est-ce que on se situe par rapport à la physique mainstream? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à l'état de l'art? Donc c'est l'état de l'art, c'est très important.
L'état de l'art.
L'état de l'art en physique, qu'est-ce que la physique nous apporte sur notre vision de la réalité? Voilà.
D'accord.
Quelles sont les possibilités de revoir notre conception de la réalité d'après la physique moderne? Ça, c'est la première partie.
Oui.
Ensuite, la deuxième partie, étant donné que le problème est posé dans la première partie, la deuxième partie consiste à répondre à ce problème, à résoudre le problème principal. Et ça nous emmène vers donc l'introduction du fait que la conscience joue un rôle justement dans le présent qui n'est pas anodin, c'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que les physiciens ne comprennent pas la fonction du présent, mais si on redonne à la conscience toute son importance, toute sa fonction, à ce moment-là la fonction de la conscience serait de on va dire, d'exciter le vide.
Alors, exciter le vide, en fait, c'est solliciter la vibration du vide.
C'est sélectionner, on va dire, le futur qu'on privilégie.
On a le choix, en fait.
On a le choix à condition d'avoir une intention qui correspond au champ des possibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on peut pas avoir n'importe quoi comme intention. Il faut que
l'intention corresponde au chemin.
Qu'il y ait une résonance entre guillemets entre l'intention qu'on peut avoir et les possibilités qui se présentent dans notre parcours de vie, on va dire mécaniquement.
Voilà, et à ce moment-là, pour que ce soit encore plus clair pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que je suis presque sur le point de comprendre. Ça veut dire que les autres aussi. Est-ce que vous pouvez nous le repréciser différemment, ou Jocelyn, est-ce que tu veux le repréciser?
Ah bah, peut-être que Philippe peut dire ce que c'est que le vide quantique. Qu'est-ce qu'on entend par vide quantique? Oui. Ça oblige à parler de ce qu'est la physique quantique et des problèmes qu'elle pose. Hein.
Oui.
Mais l'idée, c'est qu'effectivement la conscience, c'est une entité, qui a une existence tangible, quoi, qui voilà. Peut-être qui n'est pas une substance, mais qui en tout cas est capable d'interagir effectivement avec le vide quantique. Et le vide quantique, c'est quelque chose qui est plein de potentialités, contrairement à son nom. Hein, on parle de vide, mais là, les physiciens sont d'accord. Depuis longtemps là-dessus, sur le fait que le vide en fait est plein.
Oui.
Il est plein notamment d'informations et de possibilités et de potentialités multiples à partir desquelles effectivement la conscience va pouvoir choisir.
Alors je vais peut-être expliquer, peut-être un peu
mieux. Certainement.
Ça y est, la balle.
Non, pas mieux, mais complémentaire. Non, tu expliques très bien, Jocelyn. En fait, il faut comprendre que le temps, l'espace et la matière sont des notions qui sont plus relatives à la conscience. Que même à la physique. C'est-à-dire qu'en fait, en physique, on s'aperçoit qu'on détruit notre notion du temps, qu'on détruit notre notion de la matière et qu'on détruit notre notion d'espace.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne l'espace, les physiciens courbent l'espace, ils le font même vibrer. Donc, en fait, l'espace devient élastique. Ce n'est plus de l'espace. Puisque, en fait, l'espace sur lequel on représente cet espace qu'on tord, etc., il n'existe pas. Pareil pour le temps, on arrive à l'éliminer des équations de la physique, on s'aperçoit qu'on travaille en physique avec un futur déjà réalisé, un passé qui existe encore, et puis avec la matière, les physiciens décrivent la matière comme étant quelque chose qui se réduit finalement à des vibrations, hein, à des ondes électromagnétiques, pas des ondes électromagnétiques, mais on va dire de l'électromagnétisme au niveau atomique et moléculaire, et des vibrations de l'espace au niveau infiniment petit. Et donc, finalement, le temps, la matière et l'espace ne sont plus des notions qui sont physiquement acceptables de manière intuitive. On les remplace de plus en plus par de l'information. Et en fait, c'est là qu'on peut comprendre ce qu'est le vide. C'est-à-dire que si on considère que notre réalité, c'est une projection de la conscience, et certains vont jusqu'à dire, et je soutiens cette idée-là, une projection holographique, de la conscience.
J'allais vous poser, ça faisait partie des questions que j'avais à vous poser, oui.
Donc, c'est-à-dire que c'est la conscience qui est en charge, en quelque sorte, de nos créations, de sensations, du temps, de l'espace et de la matière, à partir d'un champ d'informations infiniment vaste, qui est en fait le vide, mais que nous, on voit comme vide, parce que tout simplement, on ne voit qu'une partie de l'information qui est réellement présente dans la réalité. C'est-à-dire la physique s'intéresse à une réalité qui contient 10 puissance 120 fois plus d'informations que ce qu'on peut percevoir.
D'accord.
Et ce qu'on peut percevoir, c'est une construction de la conscience. Voilà.
Donc en fait, on est très limité.
Donc on est extrêmement limité. Et d'ailleurs, les physiciens l'ont tellement bien compris qu'aujourd'hui, il y a une théorie en vogue qui est la théorie des univers parallèles. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations
dans
l'univers.
C'est les univers bulles, c'est ça ?
Alors non, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a, en tout cas, ce qui est accepté très largement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations dans l'univers que ce qu'on est capable de percevoir. Et même théoriquement, mais quand je prends même tout le passé et tout le futur, il y a encore plus d'informations que ça. C'est-à-dire que le vide contient infiniment plus d'informations que notre réalité observable.
D'accord.
Donc ceci prêche en faveur de la théorie des univers parallèles, c'est-à-dire qu'il y aurait une infinité d'autres réalités. Et il y a plusieurs manières de concevoir ça. soit on considère, alors je vais pas toutes les considérer, je vais en considérer deux concurrentes, soit on considère que toutes nos réalités parallèles, toutes ces réalités parallèles existent dans des espaces séparés, c'est-à-dire dans des univers bulles, et il y en aurait une infinité, auquel cas nous sommes prisonniers à l'intérieur d'un univers bulle, et notre futur serait déterminé de façon unique. Donc on n'aurait absolument aucun libre arbitre. La conscience ne servira à rien.
Or justement, on a notre libre arbitre.
Et l'univers dans lequel la seule différence entre ma vie et la vie d'un autre, moi-même, serait que je bouge le petit doigt pendant une seconde de mon existence, au lieu de ne pas le bouger, serait obligé d'exister. Mais tout ça pour me priver la liberté de bouger le petit doigt ou de ne pas le bouger. Donc c'est assez insensé. Cette théorie, elle est avancée simplement parce qu'elle est mathématiquement plus cohérente, tout simplement parce que les physiciens, les mathématiciens ne veulent pas faire entrer la conscience dans notre conception de la réalité. D'accord? Et donc la théorie concurrente qui est beaucoup plus acceptable, sauf qu'elle n'est, elle nous oblige à faire intervenir quelque chose qu'on ne comprend pas encore, serait de dire que toutes ces réalités parallèles existent dans le vide et sont atteignables, c'est-à-dire qu'elles sont superposées à notre réalité réellement physique, notre réalité réellement observée, et que à ce moment-là, on peut envisager la possibilité de commuter d'une réalité à l'autre.
Là, ça devient quand même plus intéressant.
Oui, ça devient plus intéressant. Et c'est la conscience qui serait en charge de cette commutation. C'est pour ça que je propose l'idée, et je ne suis pas le seul à le faire. Roger Penrose, qui est quand même le plus grand physicien mathématicien de la planète, propose cette idée que la conscience intervient dans ce qu'on appelle la réduction des états quantiques, c'est-à-dire ce qui va faire que notre réalité va aller dans un sens ou dans un autre.
D'accord. Alors, est-ce que ça nous mène aussi à... On a trois points. On avait dit qu'on parlerait de la réalité.
Oui.
On avait dit aussi qu'on parlerait de la double causalité. Puisque...
Alors, oui, d'accord.
Du coup, c'est intéressant de voir... parce qu'on parle du présent et on parle du futur. Vous dites que le futur est déjà écrit.
Oui.
Mais notre présent, il est en train de s'écrire, ou le futur est en train de s'écrire collectivement. Comment se retrouver au milieu de toutes ces informations?
Alors voilà, il faut, disons que nous vivons à l'intérieur d'une réalité qui est collectivement construite. Hein, il faut éliminer l'idée que nous vivrions chacun à l'intérieur d'un univers séparément des autres. Non, nous construisons tous ensemble le même univers, sinon il n'y aurait plus d'objectivité.
On fait partie d'un morceau de puzzle.
Oui, nous sommes un morceau du puzzle, mais nous construisons tous ensemble notre réalité collective. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas réaliser nos rêves, chacun de nous, vient du fait que cette création, elle est collective.
Donc en fait, pour créer nos rêves, il faut qu'on adhère, qu'on fasse adhérer un plus grand nombre sur notre rêve. Comme par exemple notre président, il voulait être président, ben voilà, il a fait adhérer tout le monde à son rêve.
Oui,
c'est une question naïve. Hein.
Oui, non, mais on peut le dire comme ça. Mais bon, c'est relativement facile de comprendre qu'on ne peut pas obtenir